12h30 sur France Culture et tout de suite c'est l'heure du journal de la rédaction.
Bonjour. Angela Merkel face à un nouvel ultimatum. Le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer exige un durcissement de la politique migratoire de la chancelière. Il met sa démission dans la balance. Nous ferons le point avec David Philippot à Berlin. En Italie, Matteo Salvini a réuni hier 50 000 de ses partisans à Pontida. Le nouvel homme fort du gouvernement italien veut créer une ligue des ligues en Europe pour réunir ceux qui veulent défendre les frontières. Les explications de Mathilde Aberti. En France, la crise migratoire est à l'origine du limogeage de l'ambassadeur français en Hongrie. Éric Fournier avait défendu la politique musclée de Viktor Orban. Emmanuel Macron n'a pas apprécié, nous expliquera Frédéric Seyss. Dans ce journal également, nous reviendrons sur la polémique autour de l'évasion de Redouane Faïd de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Les syndicats pénitentiaires affirment que le braqueur multirécidiviste aurait dû être incarcéré dans un établissement mieux protégé. Dossier suivi par Antoine Marette. À 12h45, Maïlys, quel sera le thème de votre première grande table d'été?
Alors au menu, nous allons parler de la Beat Generation au féminin, juste avant de faire le portrait de la photographe Nan Goldin.
Merci Maïlys Besri, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Le basculement de l'Italie dans le camp populiste constitue un tournant dans la crise migratoire européenne. À Rome, le nouveau gouvernement de Giuseppe Conte suit désormais un cap résolument hostile à l'immigration clandestine. Ce cap est d'abord celui du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Son parti, la Ligue, ne cesse de progresser dans les sondages. Nous sommes en direct de Rome avec Mathilde Imberti. Bonjour.
Bonjour à tous.
Mathilde, Matteo Salvini s'est livré hier à une démonstration de force en réunissant 50 000 de ses partisans à Pontida, près de Bergame.
Oui, démonstration de force lors de la kermesse annuelle de la Ligue et tout a changé cette année pour le parti. La Ligue est au pouvoir et ne cesse de progresser, vous l'avez dit. Elle a été choisie par 17% des électeurs au mois de mars. Elle est donnée aujourd'hui à plus de 30%. La ligne dure de Matteo Salvini convainc et le secrétaire du parti, par ailleurs ministre de l'Intérieur du gouvernement Conte, se sent pousser des ailes. Il entend gouverner pendant les 30 prochaines années, a-t-il proclamé hier à la tribune. Une Ligue qui pour l'instant n'a fait adopter aucune des réformes promises à ses électeurs. Le gouvernement Conte est au point mort. Il y a un seul thème qui écrase tous les autres. Comment accueillir le moins de migrants possible. Les ports italiens resteront fermés tout l'été, a promis Matteo Salvini. Il l'a répété hier à Pontida. Les navires des ONG sont contraints de faire escale à Malte, en France, voire en Espagne.
Alors Mathilde, Matteo Salvini rêve désormais de créer un grand pôle souverainiste en Europe.
Oui, c'est son projet pour 2019, remporter les élections européennes en fédérant les souverainistes du continent. La campagne électorale, il l'a lancée dès hier à Pontida.
Changer l'Italie, ce n'est pas suffisant. Il faut changer l'Europe. Les élections de l'an prochain reviennent à un référendum entre l'Europe des élites, des banques, de la finance, de l'immigration de masse et de la précarité, face à une Europe des peuples, du travail, de la tranquillité, de la famille, de l'avenir. Je ferai le tour des capitales. Et naturellement, je proposerai une alliance qui donne aux 500 millions de citoyens européens une alternative.
En ce qui concerne les alliés français de Matteo Salvini, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, a annoncé qu'elle se rendrait à Rome après l'été. Le pôle souverainiste s'organise, tandis que le pôle européiste s'y essaie également. Un noyau du Parti démocrate mené par Sandro Gozzi, l'ancien ministre des Affaires européennes, se rapproche de En Marche en France et Ciudadanos en Espagne pour éviter un nouveau tremblement de terre politique en 2019 en Europe cette fois.
Mathilde Imberti, correspondante de Radio France en Italie. Merci. Je vous le disais en titre, les prochaines heures s'annoncent décisif pour Angela Merkel, fragilisée par cette crise migratoire. La chancelière allemande doit une nouvelle fois négocier aujourd'hui avec ses alliés bavarois de la CSU, l'aile droite de la coalition menée par les CDU. Son chef de file, le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, a menacé cette nuit de démissionner. Il a finalement décidé de donner une dernière chance à Angela Merkel sous la forme d'un ultimatum de 3 jours. Nous sommes en ligne de Berlin avec David Philippot. Bonjour.
Bonjour.
David, Horst Seehofer veut expulser d'Allemagne les migrants enregistrés dans un autre pays européen, une mesure unilatérale que refuse la chancelière.
Exactement. À maintes reprises, Angela Merkel lui a déjà répondu qu'elle ne céderait pas sur ce principe, pas de renvoi unilatéral de migrants dans un pays tiers sans l'accord de ce pays. Mais le chef de la CSU tente un nouveau coup de bluff. Il s'entête, un entêtement absurde, une farce, un cirque sans précédent, commente ce matin la presse allemande, qui est absolument sidérée par la posture du parti bavarois, alors même que la CSU aurait pu prendre à son compte les conclusions du sommet de Bruxelles, qui porte clairement sa marque. Horst Seehofer et sa troupe se montrent bornés sur un point précis, l'établissement de 3 points de contrôle permanents à la frontière avec l'Autriche. Et pour 3 postes de douane, la CSU prend en otage le gouvernement allemand et va jusqu'à mettre en péril l'alliance avec la CDU de Merkel. Alors, malgré l'exaspération réciproque, tous les canaux de communication ne sont pas coupés. Horst Seehofer sera reçu une nouvelle fois en fin d'après-midi à la chancellerie. D'ici jeudi, il y a encore un espoir que la raison revienne, mais une chose est sûre, les Bavarois perdent leur sang-froid, paniqués par la montée de l'extrême droite dans la perspective des élections régionales d'octobre prochain. Et personne ne sait, maintenant que l'irrationnel a pris le dessus, comment ce scénario va pouvoir rebondir.
David Philippot en direct de Berlin, merci. C'est aussi la crise migratoire qui est à l'origine du remplacement accéléré de l'ambassadeur de France en Hongrie, Éric Fournier. Une affaire révélée par Mediapart dans une note interne adressée le 18 juin dernier au Quai d'Orsay. Éric Fournier avait défendu la politique musclée du gouvernement hongrois de Viktor Orban. Le diplomate avait notamment salué la façon dont l'homme fort de Budapest avait anticipé les mouvements migratoires illégaux. Propos aussitôt dénoncés par Emmanuel Macron en marge du sommet européen de Bruxelles. Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour.
Éric Fournier devait quitter son poste à Budapest à la mi-juillet. Eh bien, Emmanuel Macron a décidé d'anticiper son remplacement.
Oui, la sanction est tombée ce week-end dans le journal officiel. Quelques mots parus samedi qui précisent qu'Éric Fournier est appelé à d'autres fonctions. Un remplacement décidé 24 heures après la révélation par Mediapart de cette note interne signée de l'ambassadeur de France en Hongrie. Dans cette note adressée à l'Élysée et au Quai d'Orsay, Éric Fournier estime que le populisme du gouvernement de Viktor Orban est un mythe propagé, je cite, par les médias anglo-saxons et français. Il souligne les 3 victoires électorales consécutives d'Orban et décrit son gouvernement comme un modèle ayant su anticiper les problèmes posés par les mouvements migratoires illégaux. Allusion au barbelé érigé par le gouvernement hongrois pour empêcher d'entrer les demandeurs d'asile venus par la route de Turquie en 2015. Toujours dans cette note, Éric Fournier rejette les accusations d'antisémitisme qui visent le régime de Viktor Orban. Il y voit une diversion pour ne pas parler, je cite, du véritable antisémitisme moderne qui est le fait des musulmans de France et d'Allemagne. Fin de citation. On n'est pas exactement, Stanislas, dans la ligne politique du gouvernement français qui ne cesse de dénoncer les démocraties illibérales en visant en particulier Budapest. Certes, mais cette note n'avait pas vocation à être rendue publique. C'est d'ailleurs pour cela qu'Emmanuel Macron, dans un premier temps, n'envisageait pas de renvoyer l'ambassadeur. Interrogé vendredi, le président français avait eu ces mots « Faut-il révoquer un ambassadeur parce qu'il dit ce qu'il pense ? Je ne le crois pas. » Ou alors ce serait créer un délit d'opinion au sein de la fonction publique. Il y a donc eu un changement de pied en 24 heures. Nous avons contacté l'Élysée, Matignon et le Quai d'Orsay pour obtenir des explications. Pas de réponse. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, lui nous indique qu'Éric Fournier était réputé à la fois très professionnel mais parfois impulsif. Alors cet épisode rappelle en tout cas celui du général De Villiers à l'été dernier, limogé après s'être plaint des baisses de budget, là encore non pas publiquement mais à huis clos. Un nouvel épisode qui interroge sur le curseur entre loyauté et liberté d'opinion parmi les plus hauts serviteurs de l'État.
Frédéric Seyss, merci. Et c'est une femme, Pascale Andréani, qui succède à Éric Fournier à la tête de l'ambassade de France en Hongrie. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite de 3 jours en Afrique. Il est invité au sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert hier à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Le président français doit notamment évoquer la montée en puissance du G5 au Sahel, cette force africaine destinée à lutter contre les groupes djihadistes dans la zone sahélienne. Hier encore, près de Gao, des islamistes ont attaqué la force française Barkhane. 4 militaires français ont été blessés. L'attaque a fait 4 morts et une 20aine de blessés parmi la population civile. Revenons à présent sur ce séisme politique au Mexique. La victoire historique de la gauche à la présidentielle. Andrés Manuel López Obrador a remporté le scrutin avec plus de 53% des voix. Son principal rival, le jeune conservateur Ricardo Anaya, est relégué à 22%. Le nouveau président mexicain a fondé en 2014 le mouvement de régénération nationale, le Morena. José Manuel López Obrador prend la tête d'un pays miné par la violence, Olivier Poujade.
Une fois la joie et l'enthousiasme retombés, Andrés Manuel López Obrador devra se montrer à la hauteur de ses ambitions, en finir avec cette mafia qu'il a dénoncée durant toute la campagne. Les chantiers sont immenses, stopper la violence record dans laquelle est plongé le Mexique depuis 2006 et cette guerre sanglante déclarée par ses prédécesseurs aux narcotrafiquants, 200 000 morts et 30 000 disparus. Ensuite, la corruption quotidienne, généralisée à tous les niveaux de la société, López Obrador devra établir un plan d'urgence pour assainir avant tout toute chose, les services publics. Enfin, les Mexicains réclament un changement de ton face aux provocations de Trump. Le voisin américain se montre régulièrement insultant sur la politique migratoire. Il a récemment imposé une renégociation des accords de libre-échange. Elle est en cours. Les Mexicains attendent de leur nouveau président qu'il fasse preuve de fermeté.
Olivier Poujade, envoyé spécial de France Culture à Mexico. En France, la polémique enfle après l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd, ce braqueur récidiviste de 46 ans, condamné en avril dernier à 25 ans de prison pour un braquage qui avait coûté la vie à la policière municipale Aurélie Fouquet. Redouane Faïd s'est échappé hier dans la matinée du centre pénitentiaire de Réau en Seine-et-Marne. Il a bénéficié de l'aide de complices, un commando armé qui s'est posé en hélicoptère dans la cour d'honneur. Bonjour Antoine Marette.
Bonjour.
Et une question domine ce matin, l'administration pénitentiaire a-t-elle commis une erreur, Antoine?
Un constat, la cour d'honneur dans laquelle l'hélicoptère s'est posé n'était pas protégée par un filet de sécurité. Or, les syndicats réclamaient depuis plusieurs années cette protection. Ils n'ont pas été écoutés, ce qui a permis l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd. Mais cela n'est pas la seule explication, car au moment où l'hélicoptère se pose, Redouane Faïd ne se trouve pas dans la cour d'honneur, mais au parloir. Le commando a emprunté un couloir secret utilisé par le personnel en cas d'intervention. Le commando était parfaitement renseigné sur les plans de la prison. Peut-être a-t-il bénéficié d'une complicité intérieure. Autre question, Redouane Faïd, braqueur récidiviste, déjà auteur d'une évasion il y a 5 ans, était-il au bon endroit? Le centre pénitentiaire de Réau est certes moderne, les techniques de sécurité y sont pointues, mais pour le secrétaire général de FO pénitentiaire, Redouane Faïd n'était pas dans la bonne prison. Selon Emmanuel Baudin, il aurait dû être dans une maison centrale et pas dans un quartier maison centrale. Il était en quartier d'isolement, isolé des autres détenus, mais il pouvait communiquer avec eux. Il n'était pas plus surveillé, il n'était pas changé de cellule régulièrement. Selon le syndicaliste, on ne le fouillait pas plus dans sa cellule, tout simplement parce que le personnel n'avait pas le temps, car insuffisamment nombreux. Mais pour la garde des Sceaux, les conditions étaient réunies pour que la sécurité soit assurée. Pour Nicole Belloubet, il n'y avait pas un manque de personnel ni de surveillance. 5 surveillants étaient au parloir au moment des faits. Néanmoins, la ministre de la Justice a lancé une mission d'inspection qui devra déterminer s'il y a eu des défaillances.
Antoine Marette, merci. Les élus corses ont rendez-vous à Matignon aujourd'hui, mais seul le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, rencontrera Édouard Philippe. Il s'agit de clôturer le premier cycle de réunions sur l'avenir institutionnel de l'île. Rappelons qu'Emmanuel Macron est favorable à l'inscription de la Corse dans la Constitution. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, ne sera pas au rendez-vous de Matignon. Alors pourquoi ce boycott, Anne?
Oui, effectivement, ça peut paraître paradoxal avec cette garantie du gouvernement d'inscrire la Corse dans la Constitution. On assiste en fait à un nouveau soubresaut du président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, qui développe un discours de rupture sans pour autant proposer un véritable projet d'indépendance. Il s'agit évidemment d'obtenir le maximum d'autonomie de la part du gouvernement. Alors concernant l'inscription de la Corse dans la réforme constitutionnelle, pour rappel, il s'agit de l'article 16 de la réforme qui dit que la Corse est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution. Article 72, c'est celui qui définit les principes généraux de l'organisation des collectivités territoriales en France. Et bien, pour Jean-Guy Talamoni, cette phrase semble trop floue. Le nationaliste avait fait connaître sa déception plus globale en mars dernier, après la visite d'Emmanuel Macron sur l'île de Beauté. Le chef de l'État avait rejeté le statut de résident, de territorialité de l'impôt et surtout la co-officialité de la langue corse. Notre profonde conviction est que nos différentes demandes ont été traitées par le mépris et que Paris a fait ce qu'il avait décidé de faire avant même l'ouverture des débats, résume Jean-Guy Talamoni dans une lettre ouverte à l'adresse d'Édouard Philippe le 24 juin dernier. Alors même si Gilles Simeoni, le président de l'exécutif autonomiste, c'est vrai, sera présent à Matignon ce midi, lui aussi compte toutefois manifester son mécontentement. Pas question de se laisser diviser par Paris, explique-t-il dans une lettre ouverte publiée il y a 2 jours. Les urnes en Corse ont parlé en décembre dernier et selon lui, on est encore très en deçà du statut d'autonomie de plein droit revendiqué.
Anne Fauquemberg, merci. On termine avec la météo cet après-midi. 7 départements de la façade ouest en vigilance orange pour les orages. Un temps perturbé qui se maintiendra une partie de la journée et qui pourrait gagner le centre et l'Île-de-France. Ailleurs, le soleil s'imposera avec une vigilance canicule pour le Rhône. Température maximale en baisse sur l'ouest entre 22 et 26 degrés. Ailleurs, toujours la chaleur jusqu'à 34 degrés. C'est la fin de ce journal préparé aujourd'hui avec Yacine Bouzard.